Alors, je remercie tout le monde de la présence à cette première conférence du cycle qui est organisée annuellement par la Faculté de droit de l'Université de Montréal et par le Centre de recherche en droit public. C'est un cycle qui, dans le fond, qui a été développé depuis plusieurs années et qui vise à explorer des aspects du droit nouveaux. Et je dirais particulièrement depuis 2 ans, on a tenté, dans la mesure du possible, de créer une cohérence à chacun des cycles en lui donnant un thème qui conduit généralement à la production d'un ouvrage. L'année dernière, le cycle portait sur l'interface entre le droit comme mode de connaissance et les autres disciplines des sciences humaines et sociales. Cette année, on a voulu travailler sur les différentes fonctions contemporaines du droit. Et dans cette perspective-là, on a invité des conférenciers qui pouvaient soit traiter du droit comme substitut à la morale, soit du droit comme mode de régulation sociale, comme outil de la gouvernance. Finalement, à quoi sert le droit dans la société contemporaine? Et c'est en réfléchissant à ces diverses fonctions du droit qu'on a développé le thème de cette année, qui est le droit à tout faire. Alors, dans le cadre de ce thème-là, la première conférence nous a été offerte par Daniel Weinstock. Daniel Weinstock, on le connaît, c'est quelqu'un qui est... finalement, qui est connu et assez apprécié à l'Université de Montréal. Il arrange, je dirais, d'une certaine façon, la philosophie accessible à beaucoup de gens pour lesquels c'est souvent un mode de connaissance qui n'est pas usité. Et Daniel, il est directeur de la chaire du Canada. Je vais avoir le libellé exact du nom de la chaire, tu m'aideras. La chaire de recherche du Canada en éthique et philosophie politique, et il est également directeur du Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. C'est un centre avec lequel le Centre de recherche en droit public collabore de plus en plus et puis qui compte d'ailleurs dans ses membres des membres de la faculté. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai appris qu'il acceptait de nous donner cette conférence-là. On voulait faire tourner les choses autour du droit en tant que référence morale ou lieu du débat moral, et ça donne lieu à cette conférence-là dont le titre est « Le droit peut-il servir de base à des compromis sur des questions morales portant à controverse ?» Et il a décidé de le traiter en exploitant l'exemple plus particulier du mariage gay. Je vais le remercier encore de sa présence et puis je lui cède la parole.
Et merci. Je voudrais tout d'abord m'excuser auprès de ceux qui m'attendaient il y a 3 semaines. J'étais très malade. Je pense que c'est la première fois en 13 ans de carrière que j'annule une conférence, mais je n'aurais pas été beau à voir. Je ne le serais peut-être pas plus aujourd'hui, mais enfin, il faut dire qu'il y a 3 semaines, j'aurais eu une excuse au moins, alors peut-être que j'aurais dû me rendre malgré mon état relativement quasi comateux. Alors, je voudrais remercier le centre de m'avoir invité à prononcer donc cette conférence. Lorsque Pierre m'a approché pour réfléchir un peu à ce thème pendant l'été, la manière par laquelle il a formulé la question était celle de savoir si le droit avait en quelque sorte pris la place de la morale dans une société comme la nôtre. Donc, c'est un peu par ce biais que je vais aborder la question. Les chercheurs, vous le savez, les philosophes peut-être plus que d'autres, ont l'esprit un peu tordu, donc j'ai tordu un peu la question pour qu'elle serve mes propres intérêts de recherche et pour pouvoir vous faire état de choses que j'ai écrites et sur lesquelles j'ai réfléchi dans les derniers mois, notamment sur la question du débat au Canada et ailleurs sur le mariage homosexuel. Donc, il y a 2 parties dans cet exposé, l'une où je fais un peu le bon élève et où je tente de répondre un peu à la question dans les termes qu'elle a été posée, et l'autre où je déroge un peu et où je parle des choses dont j'avais envie de parler. Non pas que je n'avais pas envie de parler de cette chose, mais également donc, des choses dont j'avais envie de parler. Et j'essaie de faire un lien entre les deux. À vous de me dire s'il tient. Alors, première partie, donc, le droit a-t-il pris la place de la morale dans une société comme la nôtre? La position que je voudrais un peu défendre, c'est que, au fond, oui. Hein? Et dans les 2 directions, en quelque sorte, la morale s'est rapprochée du droit et le droit s'est rapproché de la morale, sujet à des pressions intellectuelles et sociales un peu différentes. Je dirais qu'il y a eu convergence entre les 2 types de discours. C'est ce que je voudrais un peu décrire dans la première partie de l'exposé. Comme je suis philosophe et non juriste, en mettant l'accent sur le premier La première convergence, celle qui rapproche la morale du droit, je dirais deux choses là, sur mes intuitions, sur ce qui fait que le droit se rapproche de la morale. Et ensuite, j'aborderai la question du mariage homosexuel comme un exemple de débat qui nous permet d'apprécier les forces et les faiblesses d'une morale juridifiée ou d'un droit moralisé à permettre en quelque sorte que se créent des consensus ou des compromis sur des questions litigieuses comme celle du mariage gay dans une société comme la nôtre. Donc, première partie. Alors, le plus souvent, lorsqu'on pose la question comme elle m'a été posée, donc, le droit a-t-il pris la place de la morale dans notre société, c'est sur un ton un peu de pessimisme culturel. Là. Quand on pose la question, c'est qu'on prévoit rien de bon là, dans la réponse. Et on anticipe un peu la réponse, probablement que oui, et probablement que c'est une bien mauvaise chose. Ce qui sous-tend la question, c'est l'intuition que nous avons, entre guillemets, pour reprendre une expression qui est souvent là, répétée dans les médias et ailleurs, nous avons perdu nos repères moraux, hein, et qu'en l'absence de ces repères traditionnels, nous n'avons d'autre choix que de nous en remettre à ce succès d'années de morale, cette moralité light que représente le droit. Hein. Donc, c'est un peu, je ne dis pas que c'est ça qu'il y avait dans l'esprit de Pierre, mais c'est un peu avec cette espèce de sous-entendu que la question est souvent posée. Alors, je pense qu'il faut se méfier de ce genre de diagnostic de déclin de civilisation. Il est, à mon avis, le plus souvent émis par ceux dont les valeurs, les repères moraux, étaient naguère dominants. Hein, lorsqu'ils affirment que nous avons perdu nos repères moraux, il faut se demander jusqu'à quel point ils ne veulent pas tout simplement dire que l'hégémonie de leur système de valeurs se trouve menacée. Hein, et que donc nous avons perdu nos repères moraux. Donc, le sous-entendu là, de déclin de civilisation qui accompagne souvent cette question, je veux la rejeter revers de la main d'entrée de jeu, quoique si quelqu'un veut remettre sur la table pendant la période de questions, on pourrait le faire. Je prétendrai dans ces quelques brèves remarques que si le droit n'est pas en train de prendre la place de la morale au sens plein du terme, une importante isomorphie est néanmoins en train d'apparaître entre ces deux dispositifs de régulation sociale, donc le droit et la morale. Je suggérerais que cette convergence résulte de tendances lourdes dans notre société qu'il ne faut pas tant saluer ou déplorer, mais plutôt simplement constater. Elles ne vont pas disparaître et je pense qu'il faut simplement en prendre acte. Je montrerai ensuite en quoi cette convergence pourrait poser problème, surtout si nous voyons la morale et le droit, ou la morale juridifiée ou le droit moralisé, comme un dispositif permettant de gérer les désaccords sociaux de manière à favoriser l'émergence de compromis sur les questions morales les plus litigieuses. L'exemple du récent débat autour de l'ouverture de l'institution du mariage aux homosexuels me servira d'illustration. Alors, permettez-moi, pour commencer, d'introduire une distinction qui est devenue tout à fait standard dans le champ de la philosophie pratique, celle qui sépare l'éthique d'une part et la morale de l'autre. Cette distinction est bien sûr conventionnelle, donc elle résulte de définition plutôt que de la nature des termes, et elle ne fait en fait aucun sens sur le plan étymologique, le second terme étant tout simplement dérivé de la traduction latine d'un mot à l'origine grecque. Donc « ethos » et « mœurs »,« mores », donc ce sont des termes qui sont strictement synonymes. Mais avec le temps et à travers la tradition philosophique, surtout dans les dernières décennies, ces deux termes sont venus à désigner deux activités rationnelles aux objets quand même relativement différents. Alors, je voudrais passer quelques minutes à faire un peu l'école, là, pour ceux qui ne sont pas philosophes, et distinguer un peu les deux types d'activités rationnelles que ces deux termes désignent. Alors, l'éthique concerne avant tout la réflexion sur les fins de la vie humaine. Une réflexion éthique est une réflexion sur les valeurs qui représentent des objets dignes d'aspiration humaine et sur les pratiques qui permettent de réaliser ces valeurs. C'est le genre de réflexion à laquelle se livre Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, par exemple, lorsqu'il se demande si la vie consacrée à la contemplation est supérieure à la vie du citoyen. Plus près de nous, c'est le genre de réflexion que l'on retrouve dans le petit texte sur l'utilitarisme de John Stuart Mill, lorsqu'il distingue les plaisirs de niveaux différents, les plaisirs bas et les plaisirs hauts. Donc, il y a une réflexion éthique sur les réflexions, sur les valeurs qu'il convient pour un être humain de poursuivre à travers ses activités. C'est une réflexion qui est intimement personnelle puisqu'elle concerne ce que l'agent humain individuel devrait viser, même si la conclusion de sa réflexion peut avoir des implications collectives. Si Aristote avait, si l'argument d'Aristote dans l'Éthique à Nicomaque avait tourné différemment, il en serait arrivé à la conclusion que c'est la vie du citoyen, donc une vie collective, qui est en quelque sorte le summum bonum pour l'être humain. Donc, c'est une réflexion qui porte sur le télos de l'agent individuel humain, mais qui peut, dépendant de l'argument de tel ou tel philosophe, donner lieu à des conclusions collectives. Alors, la morale concerne au contraire les normes qui gouvernent le vivre ensemble. C'est l'activité par laquelle nous tentons de découvrir ce que nous nous devons les uns les autres, pour reprendre en le traduisant le titre d'un récent ouvrage du philosophe américain Tim Scanlon, consacré à ce champ de la vie pratique de l'être humain. À l'opposé de l'éthique, la morale concerne un champ qui est irréductiblement public. Il n'y a pas de morale pour un ermite. Le problème de la morale n'émerge que du fait de la proximité obligée des agents humains et du fait que leurs intérêts et leurs actions ne convergent pas spontanément. Donc, on a deux champs de réflexion qui ont des objets indépendants, du moins tels qu'exprimés. D'une part, l'éthique qui porte sur les fins de la vie humaine et la morale qui porte sur les termes, en quelque sorte, du vivre ensemble. Alors, une question pérenne de la philosophie morale concerne la question de savoir si la morale peut être indépendante de l'éthique, ainsi définie. Alors, la vaste majorité des philosophes de notre tradition ont répondu à cette question par la négative. On ne va pas les prendre tous à la queue leu-leu, mais pensez à Platon dans la République, qui nous dit que ce que je dois faire dépend du type de personne que je suis. Si je suis un gardien, mes responsabilités, mes obligations sont très différentes de celles que j'ai si je suis un philosophe roi. Les éthiques judéo-chrétiennes sont elles aussi sous-tendues par une vision téléologique de la finalité de la vie humaine qui donne lieu une conception des obligations et des droits, des devoirs de l'être humain, fonction de ce télos. Donc, je dirais que pour toute la philosophie pré-moderne, et j'utilise ce terme de manière tout à fait non péjorative, chronologique, la question de savoir si l'éthique et la morale pouvaient être distinguées se répondait par un non presque quasi consensuel là, parmi tous les philosophes de notre tradition occidentale. Kant, le philosophe Emmanuel Kant, donc du 18e siècle allemand, représente ici, comme sur tant d'autres questions philosophiques, un penseur charnière. Pour Kant, l'effectivité de la morale, et par là j'entends le fait que nous la ressentions comme émettant des impératifs catégoriques, des impératifs auxquels nous ne pouvons pas déroger, donc, dépend de ce que cette morale, de ce que les règles de la morale, aient une origine nécessaire plutôt que contingente, qu'elle soit fonction de plus que simplement du fait que je me trouve à occuper tel ou tel rôle, que je me trouve à être motivé par telle ou telle fin. Son origine, si on veut rendre compte de ce caractère péremptoire, catégorique de la morale, Kant pense que son origine doit être rationnelle. Et il est en ceci un penseur résolument moderne. Il se trouve néanmoins à une certaine distance philosophique de nous, néanmoins, dans la mesure où sa conception de la raison est une conception substantielle plutôt que procédurale. Dans la conception de la raison de Kant, il y a encore énormément de contenu ressemble à s'y méprendre à l'éthos d'un piétiste de Prusse du 18e siècle, qui est ce que Kant était, ce qui explique le fait que purement rationnellement, nous en arrivions dans l'éthique de Kant à toutes sortes de préceptes sur l'éthique sexuelle. La raison nous dicte, par exemple, que la masturbation est un tort, etc. etc. Donc, il y a chez Kant quelque chose comme l'anticipation d'une conception moderne de la moralité. La moralité doit être fondée dans la raison, mais sa conception de la raison est encore traversée par ce qu'on pourrait appeler tout simplement des préjugés moraux de son temps et de son époque. Vous vous souviendrez de vos lectures de Kant qui remontent à je ne sais pas, enfin, dépendant de je ne sais pas à qui je m'adresse, mais vous vous souvenez peut-être vaguement que pour Kant, un agent rationnel, sur le plan moral, est un agent qui n'agit qu'en fonction de maximes qu'il peut vouloir comme des lois universelles de la nature. Dans ce « peut vouloir », qu'est-ce que l'on peut vouloir comme loi universelle de la nature? Kant réussit à passer énormément de contenu qui fait que, encore une fois, la morale qui se dégage de sa réflexion supposément purement rationnelle ressemble à s'y méprendre à l'éthique traditionnelle de la personne qu'il était, à savoir un bon bourgeois du 18e siècle allemand. Mais il y a quand même, et je voudrais mettre l'accent là-dessus, chez Kant, une anticipation d'un projet résolument moderne qui est celui de fonder la morale en raison. La philosophie morale contemporaine, je dirais, a en grande mesure complété le tournant amorcé par Kant, même si certains continuent à lui résister, et comme par exemple Charles Taylor, pour ne citer que lui. Donc, le tournant anticipé par Kant, quel était, encore une fois, ce projet de fonder la morale en raison et de détacher la morale de l'éthique, de faire de sorte que la morale ne dépende pas de qui je suis de manière contingente, de l'endroit où je vis de manière contingente, du rôle que j'occupe de manière contingente, mais plutôt de ma raison. Alors, une importante impulsion motivant le projet, qui consiste à vouloir identifier une morale qui serait indépendante de l'éthique, a été la reconnaissance de plus en plus répandue parmi les philosophes modernes et contemporains de ce que l'on pourrait appeler le fait du pluralisme. Le fait du pluralisme, pour reprendre une expression consacrée, formulée par John Rawls dans ses termes, mais anticipée par beaucoup d'autres penseurs avant lui. C'est sans doute à Isaiah Berlin que l'on doit l'intégration de ce thème au cœur de la philosophie pratique. Pour Berlin, l'univers axiologique, donc l'univers des valeurs, est irréductiblement pluriel, c'est-à-dire qu'il existe une pluralité de valeurs qui représentent des objets dignes d'activité et d'aspiration humaine, et que cette pluralité n'est pas qu'apparente. C'est-à-dire qu'il n'existe aucune méta-valeur sous-tendant cette pluralité qui permettrait, par exemple, d'y introduire des ordres de priorité. Le fait du pluralisme désigne donc une vision de l'univers des valeurs selon lequel il existe une pluralité irréductible de valeurs et aucune manière soit de les réduire à une sorte de méta-valeur comme les utilitaristes le pensaient et le pensent encore peut-être, ou de les ordonner en ordre de priorité. Si la thèse de la pluralité des valeurs et des conceptions de la vie bonne correspondante est vraie, alors il en découle qu'aucun consensus n'est possible dans le domaine de l'éthique tel que je viens de le définir. Hein? Si la thèse du pluralisme des valeurs est vraie, il en découle qu'il peut y avoir différentes formes de vie humaine admirable, hein, qui sont en quelque sorte incommensurables. Alors, si la morale dépend de l'éthique, comme le pensent des auteurs comme, aujourd'hui, John Gray, alors il s'ensuit que le consensus n'est pas davantage possible dans le domaine de la morale. Si ce que nous nous devons les uns les autres dépend entièrement des valeurs ultimes de la vie humaine, des valeurs ultimes que nous nous donnons, et qu'il y a quant à ces valeurs une pluralité irréductible, alors le projet de fonder en raison des normes susceptibles de gouverner nos interactions indépendamment de nos conceptions distinctes de la vie bonne est condamné à l'échec. Donc, s'il existe une pluralité de conceptions de la vie bonne, pluralité de manières d'ordonner les valeurs, et que la morale dépend de ces différentes manières de concevoir la vie bonne, de concevoir les valeurs, il en découle qu'il n'y a pas plus de consensus possible au niveau moral qu'au niveau éthique. Alors, beaucoup de penseurs contemporains ont tenté de résister à cette tendance donc, qui nous aurait fait qui aurait fait en quelque sorte que l'absence de consensus au niveau éthique déteigne sur le champ de la morale et ont voulu essayer d'opérer une sorte de rupture radicale entre les deux, entre l'éthique et la morale. Alors, en suivant, grosso modo, l'impulsion non pleinement réalisée de Kant, mais néanmoins présente in nuce dans l'œuvre de Kant, ils prétendent que une morale ne pourrait faire l'objet d'un consensus rationnel que s'il était possible, donc, de séparer le projet de la morale de celui de l'éthique. Comment ce projet pourrait-il être mené? Un des principaux courants de la philosophie morale contemporaine répond à cette question en faisant le pari que les agents humains sont dotés d'une sorte de raison commune minimale, par-delà leurs différences sur le plan des valeurs, hein, qu'ils possèdent une sorte de raison minimale, et en se demandant quelles seraient les règles que des agents caractérisés par une telle raison et désireux de définir les termes d'une coexistence pacifique avec leurs semblables, choisiraient. Alors, ainsi se déploie une multitude de théories dites contractualistes qui tentent d'identifier une dimension non controversée de la rationalité humaine et d'en déduire des normes morales susceptibles de recevoir l'adhésion de tout agent, quelle que soit sa conception de la vie bonne. Alors, il existe de multiples variantes de ce projet au XXe siècle, associées à certains des noms les plus importants de la philosophie morale du XXe siècle, aussi bien continentale qu'anglo-américaine. On pense à quelqu'un comme Jürgen Habermas, qui tente de faire découler les règles de la morale d'une certaine analyse de la communication humaine. Des philosophes dont les noms vous seront peut-être moins familiers, comme Alan Gerwirth, Thomas Nagel, Tim Scanlon, que j'ai cité tout à l'heure, et j'en passe. Donc, l'idée pour tous ces penseurs, malgré les différences dans leur déploiement particulier, c'est de dire qu'il est possible d'identifier une dimension de la raison humaine qui est en quelque sorte neutre, qui traverse ou qui transcende nos conception de la vie bonne différente et d'essayer de voir si un contenu moral ne peut pas en être dérivé. Alors, il ne s'agit pas ici... Est-ce que je peux t'emprunter ta montre? J'ai laissé ma montre au bureau et je ne sais absolument pas.
Ça, c'est un art de vivre extraordinaire. Oublier sa montre.
Oublier sa montre, effectivement, oui.
Je vais essayer d'apprendre ça.
Bon. Et évidemment, la montre m'a indiqué que j'ai parlé depuis plus longtemps que je le pensais.
Mais j'ai 5 minutes.
Ah, oui, ça, c'est une bonne manière de gérer son... Bon. Il ne s'agit pas ici, pour les fins de mon exposé, de comparer ces théories, d'en évaluer les mérites respectifs. Je voudrais toutefois signaler un obstacle auquel toute théorie de ce type doit faire face et un ensemble de desiderata auxquels elles doivent tenter de répondre ou qu'elles tentent d'intégrer aux théories pour surmonter donc cet obstacle. L'obstacle, quel est-il? Le suivant. Nous l'avons déjà évoqué dans le cas de la pensée de Kant, où il est présent de manière un peu flagrante. Là, on peut le voir avec deux siècles et demi de recul. Une conception de la morale qui serait entièrement distincte de l'éthique en se fondant sur une conception de la raison que partageraient tous les agents humains, quelle que soit leur conception de la vie bonne, doit être suffisamment riche pour engendrer des conclusions morales substantielles, mais, et c'est là le point sur lequel je veux insister, elle doit en même temps être suffisamment modeste et minimale pour être véritablement neutre parmi les conceptions de la vie bonne. Il faut que tous puissent se reconnaître, en quelque sorte, dans cette conception de la raison. Différents philosophes ont tenté de répondre de manière différente à cette exigence, donc de trouver une conception de la raison qui soit à la fois suffisamment riche pour engendrer des conclusions morales, mais suffisamment modeste pour que tous, en quelque sorte, puissent lui donner leur aval. Mais les théories qui en résultent possèdent toutes à différents degrés quatre propriétés que je voudrais énumérer et illustrer pour montrer, en quelque sorte, pour motiver donc ce qui devrait être la conclusion, la première conclusion de mon exposé, à savoir que... À cause de la pression exercée sur la morale par le fait du pluralisme, la morale se rapproche en quelque sorte du droit. L'énoncé de ces quatre propriétés vous montrera ce que j'entends par là. Alors, ces quatre propriétés sont les suivantes. D'abord, ces théories sont procédurales. Pour être acceptable aux tenants de différentes conceptions de la vie bonne, la morale est représentée au départ non pas comme un ensemble de principes susceptibles d'être contestés par l'un ou par l'autre, mais plutôt comme une procédure dans laquelle on se demande ce que pourrait accepter une pluralité d'agents motivés uniquement par le désir d'identifier les termes régissant leurs interactions. Un principe moral doit pouvoir être représenté comme résultant d'une procédure contractuelle. Deuxièmement, ces théories sont minimalistes. La condition de ce que les préceptes de la morale soient acceptés comme contraignants par tous est qu'ils soient parcimonieux. Une conception de la morale qui empiéterait sur la sphère du choix proprement éthique, au sens où je l'ai défini au début de mon exposé, pourrait rationnellement être rejeté et ne satisferait donc pas à la condition de justification procédurale que je viens d'énoncer. Il s'agit donc de circonscrire un domaine limité dans lequel tous peuvent accepter que les normes morales aient prédominance. Parce qu'une des dimensions de la morale, c'est qu'elles sont, pour utiliser un très beau terme anglais dont je ne connais pas un équivalent français avec autant de pouvoir évocatif, il faut qu'elle soit « overriding ». Il faut que tous puissent se dire... Alors, prédominant?
Oui, je pense que c'est pas... Okay. Vite pensé.
Alors, une dimension de la morale, c'est qu'il faut que ces préceptes soient prédominants. Pour que, c'est en quelque sorte, ça fait partie de la définition philosophique de ce que c'est que la morale, que ces préceptes soient, aient priorité par rapport aux préceptes qui émaneraient d'autres systèmes, d'autres dispositifs normatifs. Et pour que, dans une société marquée par le pluralisme, les normes morales soient prédominantes, il faut qu'elles définissent un terrain bien circonscrit, que tous, quelle que soit leur conception de la vie bonne, peuvent identifier comme n'empiétant pas sur la sphère de la réflexion éthique propre à leur dispositif normatif. Donc, il y a une sorte de lien conceptuel unissant l'exigence de overridingness, de prédominance, et l'exigence de parcimonie ou de minimalisme. Troisièmement, donc, procéduralisme, minimalisme. Troisièmement, la morale moderne, post-pluraliste, porte l'accent davantage sur l'action que sur l'agent. Elle ne cherche pas à définir ce que sont les traits de caractère admirables ou déplorables des agents humains. Elle ne cherche pas à établir un portrait de l'agent moral vertueux ni des motivations privilégiées des agents excellents, des agents admirables. Une théorie de la vertu ou de la motivation moralement admirable appartiendrait davantage au domaine de l'éthique, c'est-à-dire au domaine des idéaux susceptibles d'orienter la vie humaine, et donc à un domaine qui est par définition contestable. Une théorie morale qui prendrait au sérieux le défi du pluralisme demeurerait sciemment superficielle. Elle s'intéresserait à ce que les gens font plutôt qu'à ce qu'ils sont. Elle est à la recherche de normes permettant aux agents de coexister harmonieusement, et elle n'émet aucune hypothèse quant au type de caractère, quant au type de vertu, d'excellence, qui favorise un tel vivre ensemble. On pourrait dire donc, comme troisième propriété, que ces théories sont externes, en ce sens qu'elles portent davantage sur donc, la partie visible hein, des agents, ce qu'ils font, plutôt que ce qui est, en quelque sorte, dans leur âme, hein, dans leur fort intérieur. Enfin, une telle conception de la morale tend à engendrer un ensemble de préceptes centrés davantage sur ce qu'on pourrait appeler les obligations négatives plutôt que positives, c'est-à-dire sur la prohibition plutôt que l'obligation au sens plus strict du terme. Intuitivement, cela fait sens si l'on se donne le pluralisme axiologique comme point de départ. En effet, il est plus facile de s'entendre sur les torts que les individus doivent éviter de commettre dans leurs relations avec les autres que sur les biens qu'ils doivent tenter de prodiguer aux autres. La distinction entre prohibition et obligation positive ne recoupe pas parfaitement celle entre action et inaction. Certaines abstentions peuvent représenter des torts qu'une théorie même parcimonieuse de l'éthique voudra proscrire. Voir le genre d'exemple que vous voyez fréquemment et communément dans les textes de philosophie morale. Est-ce que la personne qui passe à côté d'un bébé qui se noie dans une flaque d'eau mais qui n'a rien fait pour le placer là, lui fait un tort si elle passe à côté en ne le sauvant pas? Bon, la réponse qu'on est supposé donner est que oui, et donc il y a une différence entre action-inaction comme dualisme et obligation positive, obligation négative. Hein? Enfin. Mais de manière générale, une telle morale insistera davantage sur ce que les gens doivent éviter de faire à autrui plutôt que de ce qu'ils doivent positivement faire. On peut se représenter le champ de l'éthique sous forme schématique. Alors, si j'étais bon pour faire des PowerPoints, j'en aurais un, mais je ne le suis pas, donc je n'en ai pas. Le partisan d'une éthique minimaliste, comme celle que je dépeins, se représentera les actions comme tombant dans trois catégories de tailles très différentes. Le requis, le prohibé, le permis. Il aura comme principal souci de bien circonscrire les deux premières catégories et placera toutes les autres actions dans la catégorie du permis, ne se souciant pas trop d'une autre distinction qui a été historiquement beaucoup débattue par les philosophes, surtout prémodernes, la distinction entre ce qu'on appelle aujourd'hui l'obligatoire et le surérogatoire, c'est-à-dire l'obligatoire, ce que nous devons faire, hein, et le surérogatoire, à savoir ce que nous ne devons pas nécessairement faire, mais qu'il serait admirable que nous fassions. Hein. Il est permis et non requis de faire ce qu'il est admirable. Pour le philosophe moderne, ce qui est particulièrement important, c'est de bien définir la sphère de l'obligatoire et du proscrit et de laisser dans une sorte de tout relativement indifférencié la troisième grosse catégorie, celle du permis. Une autre manière de dire qu'une morale minimale insiste sur le proscrit et l'obligatoire est de dire qu'elle cherche avant tout à définir les droits moraux des agents et à leur donner préséance par rapport à toute autre considération pratique. Posséder un droit, cela revient, pour reprendre la célèbre phrase de Ronald Dworkin, à posséder un atout dans le jeu de bridge. Il me protège contre les actions des autres qui pourraient fort bien être justifiées du point de vue de leur bien-être ou de leur conception partisane de la vie bonne, mais qui représentent pour moi un tort qui aura été identifié au préalable par la théorie comme justifiant que ces actions soient classées dans la catégorie du proscrit. Avoir un droit, c'est être prémuni contre les principaux torts que les individus peuvent commettre les uns à l'endroit des autres. Alors, une morale tentant de faire consensus dans un contexte de pluralisme axiologique sera donc procéduraliste, minimale, externe et axée sur la protection des droits moraux. On l'aura reconnu, une telle morale ressemble tant par sa forme que par jusqu'à un certain point son contenu au processus et au contenu droit. Des pressions propres à la modernité qui doivent somme toute être vues comme positives parce qu'elles poussent à reconnaître une diversité constitutive interne au champ des valeurs qui avait autrefois peut-être été davantage réprimée par l'hégémonie des valeurs de groupes dominants, mènent à une certaine isomorphie de la morale et du droit. Ni l'un ni l'autre n'aurait comme principale fonction de promouvoir le bien, tous deux seraient davantage concernés par le juste, pour reprendre les termes d'une autre distinction communément débattue en philosophie pratique, la distinction entre le bien qui nous dit où nous devons aller et le juste qui tente d'établir les balises, les frontières que nous ne pouvons pas outrepasser en allant là où nous voulons aller. Donc, ni l'un ni l'autre n'aurait comme principale fonction de promouvoir le bien. Tous deux seraient davantage concernés par le juste. Ni l'un ni l'autre ne vise à rendre les agents humains meilleurs. Ils cherchent plus modestement à faire de sorte que leurs interactions soient suffisamment gouvernées et policées pour que chacun puisse, à l'intérieur de la sphère d'autonomie qui lui est ainsi garantie, voir à son propre épanouissement, selon sa propre conception de la vie bonne. Alors, je viens de parler de la convergence de la morale vers le droit. Si j'étais juriste, ce que je ne suis pas, et si j'avais quelques minutes de plus, que je n'ai pas, je parlerais, parce que j'ai une deuxième partie là, je parlerai également de la convergence dans l'autre sens. Peut-être deux phrases là, qui vous sembleront, juriste que vous êtes, énormément naïve et bon enfant, mais je les dirai quand même. Il me semble qu'aux États-Unis, depuis longtemps, mais également au Canada, dans une certaine mesure depuis 1982, il y a eu convergence du droit vers la morale, du moins dans la perception que le public a du processus juridique. En effet, dans la mesure où l'interprétation constitutionnelle menée par la Cour suprême a pris le pas sur le processus législatif dans l'imaginaire public que les gens ont de ce qu'est le processus juridique, et dans la mesure où cette interprétation est en grande mesure axée autour de l'interprétation de notions morales, comme les droits, hein, le droit rejoint la morale en partant de l'autre bout. Mais ce serait une autre histoire que d'autres ont déjà racontée sans doute ou raconteront bien mieux que je ne pourrais le faire. Alors, voilà la première partie de mon exposé dans laquelle je réponds un peu à la question qui m'a été posée dans les termes où elle m'a été posée. Est-ce que la morale a pris la place du droit? Pas exactement, mais elle s'est mise à lui ressembler pas mal sous le coup de pression là, qui s'exerce sur le champ pratique dans la modernité particulièrement consciente du fait du pluralisme et qui a mené donc à cette espèce de séparation, tentative de séparation pour certains, tentative échouée, entre l'éthique et la morale, entre ce que nous devons viser et ce que nous devons faire dans nos interactions les uns avec les autres, ce que nous nous devons les uns les autres. Deuxième partie de l'exposé. Pour certains philosophes, le tournant que je viens de décrire représente une perte significative. Charles Taylor parle, par exemple, dans Sources of the Self, d'une « ethics of inarticulacy », une éthique de... Ça a été traduit en français, mais je n'ai pas la traduction, de la... Inarticulacy. Une éthique inarticulée qui ne nous permet pas de dire ce que nous devrions vraiment pouvoir dire. Non. C'est inarticulate, c'est qu'il ne peut pas s'exprimer correctement. Enfin, on pourra avoir un débat de traduction après. Selon lui, une telle morale nous rend incapables de parler de ce qui a historiquement été au cœur de l'enquête morale des humains, ce qui est admirable et ce qui est vil, ce qui est vertueux et ce qui est honteux. Je ne suis pas entièrement d'accord avec le point de vue de Taylor. Nos traditions éthiques, très différentes et diverses, possèdent des vocabulaires très riches pour tenter de définir ces concepts. Ce que dit le moraliste moderne n'est pas tant que nous ne devrions pas en parler, mais que nous ne devrions pas tenter d'assortir ces concepts de la modalité de l'obligation et de la prohibition. Cela risquerait de donner lieu à ce qui a été une tentation permanente pour l'être humain, c'est-à-dire de rendre normative, obligatoire, objective, entre guillemets, une conception de la vie bonne qui est en fait partisane. Il est important dans une société pluraliste que nous puissions nous mettre d'accord sur ce qui est obligatoire et prohibé, sur le genre d'action qui sera assorti des sanctions les plus sérieuses, que ce soit des sanctions légales ou des sanctions morales, hein? Par exemple l'ostracisme, hein, qui est souvent la sanction qui accompagne le blâme moral et qui est souvent une sanction beaucoup plus... qui fait beaucoup plus sévère que la sanction légale. Hein? Donc, sur le genre d'action qui sera assorti des sanctions les plus sérieuses, et que cet accord soit le fait d'un véritable consensus plutôt que de l'hégémonie d'un cadre normatif particulier. Bon. Cela ne veut pas dire que la juridification de la morale soit sans danger. Je voudrais consacrer le reste de mon exposé à parler un peu de ces dangers. Pour voir le type de danger auquel peut donner lieu une morale de l'obligation et de la prohibition stricte, axée autour des droits, je voudrais emprunter un chemin un peu indirect. Je voudrais brièvement caractériser ce que je vois comme étant les principales modalités de résolution de désaccords dans une démocratie. Imaginons un désaccord sur une question litigieuse par rapport à laquelle les membres d'une démocratie plurielle doivent se doter de normes communes. Alors, de manière très idéale typique, je vois trois principaux modes de solution. Premièrement, on peut imaginer que le désaccord donne lieu, au terme de la délibération, à un consensus. Il y a consensus lorsqu'un interlocuteur se range librement à la position de l'autre, qu'il voit maintenant comme étant supérieure à celle dont il était parti, ou lorsque les deux interlocuteurs, en imaginant une délibération simple à deux parties, là, évidemment la vie est beaucoup plus compliquée, ou lorsque les deux interlocuteurs en viennent à une position nouvelle qu'ils voient tous deux comme étant supérieure à leur position originale. Deuxièmement, le désaccord peut se solder par un compromis. Il y a compromis lorsque les deux partenaires en arrivent à une position qu'ils voient tous deux, dans l'absolu, comme étant inférieure à leur position initiale, mais dont l'adoption est tout de même jugée préférable à la continuation du conflit. Troisièmement, le conflit peut donner lieu à, dans une démocratie libérale qui reconnaît donc un certain nombre de droits et de principes procéduraux enchâssés dans une constitution, le conflit peut donner lieu à un constat d'erreur. La démonstration par un des partenaires que la position de l'autre impliquerait une violation d'un droit ou d'une infraction par rapport à une autre règle constitutionnelle peut mettre fin à un conflit, non pas en ralliant le perdant à la position de son adversaire, mais en le déclarant en quelque sorte hors champ, en le disqualifiant. Si le pluralisme caractérise véritablement les sociétés modernes, alors les consensus seront rares. Il y a lieu de se demander si les institutions et le débat démocratique devraient même être organisés afin de les atteindre, et je dirai quelque chose de plus sur cette question dans un instant. Le consensus implique la résolution d'un différend sur le plan des valeurs, qui, selon la thèse du pluralisme, est irrésolvable. Qui plus est, le fait de viser le consensus risque de nous amener à ne pas reconnaître à leur juste valeur les types d'accords, de compromis, beaucoup plus modestes et limités, qui sont réellement à notre portée en démocratie. Alors, à mon avis, le compromis représente l'objectif le plus plausible et le plus désirable en démocratie, et les institutions démocratiques devraient par conséquent être organisées afin de les favoriser. Plausible, le compromis l'est comme objectif parce qu'il n'exige pas que soient mis de côté nos différends sur le plan des valeurs. Désirable, parce que compatible avec le maintien de l'amitié civique. Je m'explique. Le compromis implique que nous fassions tous deux, au nom de l'amitié civique, au nom de la continuation de la coopération sociale, que nous fassions tous deux des sacrifices réciproques. Chacun met de l'eau dans son vin afin de préserver le lien social. Les compromis ne sont possibles qu'étant donné une certaine confiance sociale. Il serait irrationnel pour moi de céder quelque chose si je n'ai pas la confiance que l'autre sera prêt à en faire autant. Mais en même temps, le compromis alimente une telle confiance, car il met en évidence la valeur que les partenaires attribuent au maintien de la coopération sociale. Si les individus possèdent des droits, et ils en possèdent, alors il est inévitable que parfois les conflits sociaux résulteront en la révélation du caractère irrecevable de la position de l'un des partenaires. On comprend facilement, un autre mode de résolution possible, non pas le compromis, non pas le consensus, mais la déclaration hors champ, comme non acceptable, disqualifiée de la position de l'un ou de l'autre des deux partenaires. Alors, on comprend facilement pourquoi le recours au registre du droit est tentant, mais également pourquoi il peut être coûteux sur le plan social. Il est tentant parce qu'il fait miroiter la possibilité d'une victoire totale. Celui qui réussit à démontrer que la position de son adversaire impliquerait la violation d'un droit ou d'un autre principe constitutionnel n'a pas à faire de compromis par rapport à sa position initiale. Mais il est coûteux parce que la volonté de sacrifier pour les fins du maintien du lien social n'est pas aussi apparente dans ce genre de cas qu'il l'est dans celui du compromis. La personne qui dit constamment à l'autre « j'ai raison, c'est moi qui détiens la vérité » est une personne qui, toute autre chose étant égale, ne démontre pas par ce fait son amour de la solidarité, son amour de la vérité peut-être. Et c'est la raison pour laquelle peut-être, en me relisant, c'est une phrase de Hannah Arendt, qui est un philosophe que l'on comprend souvent là, après... quand elle dit que la vérité n'est pas une propriété, n'est pas une vertu politique, je comprends quelque chose comme cela. Mener le débat démocratique sous le registre de la vérité et de l'erreur, ce n'est pas nécessairement la meilleure manière de promouvoir la solidarité. Donc, il y a des avantages reliés à la stratégie des droits, parce qu'elle fait miroiter la possibilité donc, d'une victoire totale, de la non-nécessité donc, d'avoir à sacrifier quoi que ce soit. Mais elle comporte également des dangers. J'ai sauté. Les avantages donc associés à la stratégie de la démonstration, stratégie de la vérité, font que le domaine des droits est dans le discours et dans la pratique politique soumis à une pression inflationniste. Il y a une forte tentation pour toute personne cherchant à faire valoir une revendication à le faire sous la forme du droit, d'un droit. Ainsi, des droits émergent au gré des conflits sociaux. Mon exemple préféré à l'heure actuelle est celui que l'on retrouve dans certains débats sur les technologies génétiques, donc parmi ceux qui s'opposent au clonage et à certaines technologies génétiques, il y a un droit qui est mis de l'avant par des philosophes parmi les plus sérieux, tels que Jürgen Habermas. On entend parler du droit à un destin, à une destinée génétique unique. Ce qui est une autre manière de dire que ce serait une bonne chose, selon les tenants, les opposants de certaines technologies génétiques, et notamment du clonage, que les gens aient une destinée génétique unique. Mais la tentation des droits fait que cela est traduit par le vocable du droit. Et l'autre jour, j'ai trouvé que cette... évidemment, une fois qu'un parti dans un désaccord se hisse au niveau des droits, il est presque nécessaire... le vis-à-vis le fasse également. Il y a un ouvrage qui a été récemment publié dans une des grandes maisons d'édition américaines qui tente de montrer en fait que les positions anti-clonage ne sont pas seulement moralement questionnables, sujettes à débat, mais fausses, erronées sur le plan constitutionnel américain. Pourquoi? Parce qu'une politique anti-clonage soumettrait à une discrimination toute une catégorie de personnes, à savoir les clones. Donc, dans le contexte constitutionnel américain, de dire que des politiques anti-clonage placeraient en quelque sorte au banc de la protection, de l'égale protection des lois, toute une catégorie de personnes, les clones, chose que l'on ne peut pas faire dans la logique constitutionnelle américaine. Donc, c'est à mon avis un débat qui devient très, très vite absurde. Au fond, ce que ces gens-là ont envie de dire, c'est que, étant donné leurs conceptions les plus profondes de ce qu'est l'être humain, le clonage est quelque chose d'absolument répréhensible d'une part, ou parfaitement acceptable et concevable de l'autre, mais la logique de la tentation exercée par le droit, donc une victoire rhétorique et légale totale de l'un sur l'autre, fait qu'on se hisse au niveau du droit et on dit parfois des choses qui me semblent assez, mais enfin, peut-être que d'autres voudront me contester, assez énormes. Alors, il y a évidemment de multiples dangers avec la stratégie de l'utilisation du droit. L'une déjà évoquée, de mener à une politique de la confrontation et du tout ou rien, qui, tout autre chose étant égale, ne favorise pas la confiance sociale, mais également celui de donner lieu, comme le font tous les processus inflationnistes, à une dévaluation du cours des droits. Si tout est matière à droit, rien ne l'est vraiment. Toutes les cartes ne peuvent pas représenter l'atout dans un jeu de bridge, à moins de vouloir changer radicalement la nature du jeu. Le danger de la convergence entre morale et droit est donc que ce vocabulaire, qui ne devrait couvrir qu'une partie relativement étroite du débat moral et politique, ne vienne à l'envahir complètement et vienne à éclipser le genre de dialogue démocratique qui favorise le compromis et la confiance sociale. Ce dialogue, plutôt que de s'appuyer dans la logique péremptoire et catégorique des droits, chercherait à créer des ponts entre conceptions de la vie bonne diverses, ces conceptions de la vie bonne que le discours du droit a justement tendance à mettre de côté. Alors, il y a une vision de la vie démocratique des sociétés modernes qui a énormément de cours dans la philosophie politique contemporaine que l'on désigne le plus souvent par le terme de « démocratie délibérative », selon laquelle la délibération démocratique entre citoyens devrait nous permettre de régler les grands différends sociaux qui nous opposent. Mais que la délibération entre citoyens devrait en quelque sorte lui aussi ressembler à un débat de juristes ou de moralistes. Les citoyens devraient, selon cette vision, laisser de côté toute référence à des conceptions de la vie bonne différentes susceptibles de bloquer l'émergence du consensus moral. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il me semble que le consensus au sens propre du terme est un objectif déplacé pour une société véritablement marquée par le fait du pluralisme. Par conséquent, les dispositifs institutionnels imaginés par les partisans de la démocratie délibérative et qui ont comme principal objectif d'engendrer des consensus plutôt que des compromis devraient également être revus. À mon avis, une démocratie délibérative dont les processus délibératifs ne chercheraient pas à contourner ou à neutraliser la pluralité morale constitutive de nos sociétés, mais plutôt à favoriser l'émergence de compromis et le renforcement de la confiance, n'insisterait pas, comme le font les partisans de la démocratie délibérative version 1.0, sur l'importance de ce que la délibération se fasse par l'échange de raisons neutres, du point de vue des différentes conceptions de la vie bonne, mais plutôt simplement que la vie démocratique soit organisée en fonction de l'échange de raisons. Non pas des raisons neutres, mais simplement des raisons, des arguments. Il y a parmi les penseurs, tant du libéralisme contemporain que de la démocratie délibérative, une tendance à voir les conceptions de la vie bonne comme se situant à l'extérieur de la sphère de la raison. Étant souvent basées sur des traditions culturelles ou religieuses, elles sont vues comme étant davantage le fait de la révélation ou de l'héritage plutôt que de la raison. Les traditions qui sont en quelque sorte l'incarnation ici-bas du pluralisme moral un peu abstrait dont j'ai parlé tout à l'heure sont en fait, en réalité, des sources souvent très riches de raisons éthiques, de raisons morales. C'est une erreur que de penser que l'échange de raisons implique par définition que l'on est à se situer à l'extérieur des cadres de considérations éthiques que représentent les traditions culturelles et religieuses. On peut donc très bien imaginer que le dialogue démocratique se fasse à partir plutôt qu'en abstraction des conceptions de la vie bonne très diverses des citoyens d'une société démocratique plurielle. Une telle manière de procéder comporterait de multiples avantages. Elle favoriserait la transparence démocratique, les participants à la délibération sentant qu'ils peuvent parler à partir de leurs motivations les plus profondes plutôt que d'avoir à s'encarcaner dans un discours artificiel auquel ils n'adhèrent que du bout des lèvres, voire le débat un peu artificiel que j'ai évoqué il y a un instant entre le tenant de celui qui a les droits à une destinée génétique propre versus ceux qui disent que le droit est violé par toute conception anti-clonage puisqu'elle met en quelque sorte au banc de la protection légale toute une catégorie de personnes, à savoir les clones. Il favorise l'émergence de compromis, les ressources normatives des différentes traditions étant souvent beaucoup plus nuancées et flexibles que ne le sont les droits. Et il favorise l'évolution culturelle, puisque les cultures ont toujours évolué par interaction plutôt que par isolement. Il y a donc lieu de favoriser le dialogue démocratique menant à des compromis, plutôt que la tentative d'obtenir le chaos argumentatif en ayant recours aux droits. Les droits sont importants, mais leur importance dépend en grande partie de ce que nous en fassions un usage parcimonieux. Et le respect de cette condition nous permet par ailleurs d'éviter le caractère corrosif pour la démocratie que de nombreux commentateurs ont constaté et déploré et que j'ai tenté de diagnostiquer ici. Alors, je voudrais en terminant illustrer la différence entre ces deux manières de gérer les différents axiologiques en employant un exemple bien précis, finalement j'y arrive, là, celui du débat récent et encore actuel autour du soi-disant mariage gay, donc de l'ouverture de l'institution du mariage aux couples homosexuels. Pour être un peu provocateur, je dirais que, à mon avis, une occasion a été manquée au Canada comme ailleurs pour mener ce genre de dialogue démocratique, et que le débat a donc été polarisant et envenimé plus qu'il n'avait vraiment besoin de l'être. Alors, pour des raisons qui sont, à mon avis, parfaitement compréhensibles et peut-être également, en dernière analyse, justifiables, même étant donné une vision relativement étroite des situations dans lesquelles le recours au droit est légitime, les partisans de l'ouverture de l'institution du mariage aux homosexuels ont opté pour la stratégie des droits. L'institution du mariage confère des bénéfices sociaux et importants. Il s'agit d'une infraction au droit à l'égalité que de nier ses droits aux homosexuels. L'argument, donc, est un argument de type massue, là, qui ne permet pas vraiment aux opposants de l'ouverture du mariage homosexuel de faire valoir des considérations adverses. Une brèche était cependant, et je dois préciser, je sympathise tout à fait avec cet argument et avec l'utilisation qui en était faite, mais je me demande si... peut-être en marge de cet argument juridique, une occasion n'a pas été manquée pour faire de sorte que l'après-extension du droit, des droits de l'institution du mariage homosexuel se vive de manière plus harmonieuse. Si une occasion n'a pas été manquée donc, par le fait qu'en marge donc, de cet argument juridique, nous n'avons pas eu le type d'argument de type plus délibératif que je voudrais rapidement esquisser ici. Il me semble qu'une brèche était ouverte pour le genre de dialogue démocratique que j'envisage, dû au fait que les opposants à l'ouverture du mariage aux homosexuels, ont basé leur opposition au Canada comme ailleurs, pas tellement sur un argument fondé sur les droits, il aurait été difficile de le faire. Bon, sauf des arguments un peu bizarres, là, il y a un argument mis de l'avant par Margaret Somerville, par exemple, que je dois dire que je ne comprends pas vraiment, basé sur l'idée que les enfants auraient le droit d'être élevés par un père et une mère ou de connaître leurs antécédents génétiques, et donc que cela ne peut se faire que dans le contexte d'une institution du mariage qui serait réservée à des couples hétérosexuels. Donc, le gros de l'argumentaire des opposants à l'ouverture du mariage aux homosexuels a davantage porté sur des considérations portant sur le sens et la fonction du mariage dans une société comme la nôtre. Au cœur de l'argumentation se trouvait l'idée que le mariage est réservé aux couples hétérosexuels parce que la société a un intérêt énorme à promouvoir la forme sociale au sein de laquelle est formée la prochaine génération. Alors, même si l'association du mariage à la procréation puise ses sources dans des traditions religieuses à peu près toutes, là, il est présenté, tel que je viens de le faire, dans une forme fonctionnelle avec laquelle les partisans de l'extension du mariage aux couples homosexuels auraient pu ouvrir le dialogue. Il est relativement facile, du moins à mon avis, de montrer que la justification du mariage dans sa forme actuelle par le biais de la considération intergénérationnelle est assez difficile à faire. Un pourcentage important de couples n'a jamais d'enfants, et une politique soucieuse de favoriser les conditions dans lesquelles les enfants sont formés serait axée davantage sur les enfants, directement, quel que soit le contexte dans lequel ils naissent, plutôt qu'indirectement sur les couples hétérosexuels. Mais il est également possible d'établir un pont entre les tenants de la position traditionnelle et les défenseurs de l'ouverture en considérant l'idée, l'attente implicite donc dans l'argument traditionnaliste, que l'existence d'une institution publique du mariage n'a de sens que si cette institution remplit une fonction sociale importante, et en montrant que la fonction sociale qui est directement remplie par le mariage, c'est-à-dire par l'union de deux personnes, par le biais des responsabilités et de toute la symbolique qui accompagne le mariage dans notre société, qui permet le mieux de rendre compte de tout cet ensemble de responsabilités et de symboliques, a trait non pas à la relation contingente que le mariage entretient avec le fait d'élever des enfants, mais à ce qui est essentiel et intrinsèque au mariage, c'est-à-dire la création d'une relation inconditionnelle de support et d'entraide entre deux personnes qui, hein, pour employer une expression assez peu romantique, augmentent le capital social d'une société. Hein. Ce qui est intrinsèque à la relation du mariage, ce n'est pas le fait de procréer, c'est le fait que deux personnes se disent ce qu'ils se disent lorsqu'ils se marient, à savoir pour le meilleur et pour le pire, et s'engagent en quelque sorte à créer en quelque sorte entre eux une sorte de micro-communauté d'entraide et de support. Hein? C'est quelque chose qui est intrinsèque au mariage, alors que la relation à l'enfant, comme on le voit par le fait qu'une proportion de plus en plus importante de couples ne procréent pas, hein, de couples hétérosexuels, j'entends, hein? Ce qui est intrinsèque donc au mariage, c'est peut-être cela, c'est le fait que le mariage crée un lien de support qui augmente le capital social d'une société, du moins potentiellement. Donc, on prend l'idée qui est latente dans l'argument traditionnaliste, à savoir que le mariage comme institution publique exige que l'on puisse démontrer, hein, que le mariage remplit une fonction sociale importante, suffisante pour justifier que l'État s'immisce dans la sphère que l'on considérerait autrement privée de la vie des individus. Hein. On prend au sérieux donc cette exigence et on montre qu'il y a une meilleure manière d'y répondre, celle qui passe par des propriétés qui sont intrinsèques au mariage plutôt que contingentes. Hein? Et on montre que cette fonction ne permet pas d'exclure les couples homosexuels, puisque eux, tant que les couples hétérosexuels sont capables de former ce que j'appelle encore une fois de manière très peu romantique des micro-sociétés d'entraide et de support, hein? Et que l'État a autant intérêt à ce que ce genre de fonction soit remplie dans la vie des couples homosexuels qu'il en a à ce que cette fonction soit remplie dans la vie des couples hétérosexuels. Donc, et pour conclure, ce que je voulais montrer ici, c'est qu'il y a en quelque sorte deux manières par lesquelles on peut mener l'argument, le débat sur l'extension, sur l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. L'une, et encore une fois, je ne veux pas dire que le recours à cette manière de procéder n'était pas justifiable dans le contexte actuel. L'une est péremptoire. Hein, et dit en quelque sorte que la position de l'autre ne mérite même pas la peine, ne mérite même pas d'être entendue sur la place publique parce que, a priori, elle est disqualifiée, violente, parce qu'elle viole des droits, ce qui évidemment peut être vécu comme une source de profonde frustration par ceux qui estiment qu'ils ont quelque chose d'important à contribuer au débat, hein, de l'autre côté en quelque sorte de l'argument, versus une manière potentiellement plus consensuelle, hein, de mener le débat, qui tente d'identifier dans la position de ceux qui argumentent pour le mariage à partir d'une vision traditionnelle de la fonction du mariage dans la société, qui tente de montrer qu'un pont peut être effectué en prenant au sérieux cette idée-là de la fonction sociale importante du mariage et en montrant qu'il y a une meilleure manière de répondre, de rendre compte de cette fonction qui ne permet pas l'exclusion des couples homosexuels. Fin de la deuxième partie. Plus que lorsque je me suis relu, je me rends compte que les deux parties de mon exposé, le lien entre eux est peut-être beaucoup plus ténu que je ne l'avais pensé. Donc, je vais essayer en 15 secondes de tisser un lien un peu plus serré. Ce que j'essaie de montrer dans une première partie de mon exposé, c'est qu'il y a un mouvement que l'on peut comprendre et dont je pense qu'on peut également approuver, qui pousse la morale dans le sens d'une isomorphie avec le droit. Et que ce n'est pas une bonne ou une mauvaise chose, simplement, je pense que c'est quelque chose qui répond à des pressions sociales énormes, profondes, contre lesquelles on ne peut rien, en quelque sorte. Hein. Ces pressions sociales poussent la morale, donc, dans le sens d'une sorte de... la morale parle de moins que ce qu'on pensait peut-être il y a dans la période prémoderne. Hein. Mais elle tente, sur ce moins, d'établir un consensus par rapport auquel il est possible néanmoins d'émettre des normes qui seront ressenties et acceptées comme étant péremptoires et catégoriques par tous les citoyens, indépendamment de leur conception. Le danger, deuxième partie de l'exposé, est évidemment que... on adopte la perception que cette morale quelque peu juridifiée épuise complètement, envahit complètement le domaine de la discussion et de la délibération démocratique, ce qui serait je ne vais pas reprendre mon argumentation pour des raisons que j'ai tenté d'évoquer dans la deuxième partie de mon exposé, un danger, et du point de vue des droits qui se trouveraient soumis à une pression inflationniste qui serait problématique pour les droits, mais également du point de vue de la solidarité et du débat démocratique, donc ce qui serait malheureux. Donc voilà, je vais m'arrêter là et j'espère en avoir dit suffisamment pour susciter des questions.
Merci beaucoup.
Bon, écoutez, on va recevoir les questions. Moi j'en aurais une, mais je ne suis pas certain qu'il faut que je monopolise la conversation. Alors, je donne d'abord la possibilité à la salle, et puis j'arriverai plus tard, je viendrai plus tard avec mes questions. Ah oui, comme la conférence est enregistrée, on vous demande peut-être d'utiliser le micro de manière à ce que votre question soit également enregistrée et que tout le monde puisse bénéficier à la fois de la question et de la réponse dans le cadre du document qu'on va rendre accessible sur le site web.
Tout le monde est convaincu.
Bon, ben moi j'aurais une question à ce moment-là. Je vais en profiter qu'il y ait un petit trou. Le point de vue que tu as développé, je retrouve un peu sa contrepartie dans une conférence que tu as donnée, c'était en mai dernier, où je pense même il y a un an et demi, on était ensemble dans un colloque sur la question de la religion qui a été organisé par Micheline Milo, et puis qui posait un peu déjà quelques éléments que tu reprends ici. Et une chose m'avait... et par la suite, tu avais dû quitter, de sorte qu'on n'a pas pu avoir les chances que j'essaie de reprendre...
Parenthèse, pour d'excellentes raisons.
Oui, parce que sa femme accouchait. Alors, on a dit, OK, dans ces conditions, tu peux quitter le colloque. Mais à l'époque, je m'étais dit que c'était intéressant puisque ça réintroduisait la possibilité pour des gens qui tirent leur point de vue d'une posture éthique fondée dans ce cas-là, c'était le cas plus ou moins de la perspective religieuse auquel ils adhéraient, pour pouvoir contribuer de façon légitime au débat, sur la définition de la norme qui serait partagée, du compromis qui serait éventuellement fait. Et tu avais amené cette idée-là que la fonctionnalité ou pas de la norme devient à ce moment-là le lieu sur lequel on peut négocier. Et ce qui me posait problème, c'était le fait que mes recherches sur le sentiment religieux ou sur l'appartenance religieuse tentent à révéler qu'une partie de ceux qui adhèrent, et une bonne partie d'ailleurs de ceux qui adhèrent à une communauté de foi, définissent pas du tout les normes en fonction de leur fonctionnalité, mais parce qu'elles considèrent qu'elles sont rattachées à des références qui sont valables pour des raisons intrinsèques ou parce qu'elles correspondent à une certaine ontologie naturelle, et que ce type d'argument-là et cette conception-là de ce qu'est la normativité n'est pas celle qui permet le mieux de délibérer sur la norme en fonction de son utilité fonctionnelle. Et donc, dans le fond, ça a amené un débat qui ne porte pas sur la même chose, puisque si tout le monde traite de la fonctionnalité, peut-être qu'on peut en arriver à dire oui, c'est la fonctionnalité qui compte, et deux, cette fonction-là, c'est celle sur laquelle la norme doit être fondée. Ça va, mais c'est en autant que tout le monde considère que le débat sur la norme est un débat sur la fonctionnalité. Or, il y a peut-être une partie importante de la population, particulièrement ceux qui fonctionnent à partir d'une référence éthique, qui n'ont pas du tout ce point de vue-là sur qu'est-ce qu'une norme et quelle est sa signification, qui dans ce cas est plus symbolique qu'instrumentale.
Je vais faire quelque chose. D'abord, je te remercie de la question et je te remercie également de m'avoir révélé qu'entre une conférence que j'ai prononcée il y a un an et demi et une conférence aujourd'hui,
il y a une certaine
concordance, que je n'ai pas trop changé d'avis, que je ne me suis pas contredit. Je vais faire quelque chose que les philosophes font souvent, et donc je vais le faire avec énormément de... Enfin, en faisant très attention et étant conscient de ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire que je vais faire un peu ce qu'on appelle de la armchair sociology, hein, de la sociologie de divan.
De
Baruchel, c'est ça. Est-ce qu'il est possible... Alors, soumettre ça sous la forme d'une hypothèse ou d'une question. Est-ce qu'il est possible que les propriétés que tu prêtes au discours religieux dans une société comme la nôtre aient non pas une sorte de... Comment dire de variables indépendantes, là, quelque chose qui est en quelque sorte donné par la nature de la conviction religieuse, mais qu'elle est plutôt fonction du rôle qu'on a tendance, du fait qu'on a tendance à écarter la contribution religieuse du débat public, qu'on a tendance, et je dis ça en tant que personne qui n'a pas de conviction religieuse, là, qu'on a tendance à faire, à établir et à marquer la distinction de toutes sortes de manières institutionnelles et symboliques, de manière extrêmement dichotomisée, là, la sphère de ce qui appartient aux religieux et qui occupe les gens là, dans leur vie privée et ce qui appartient à la sphère publique. Je pense que ce qui arrive, en quelque sorte, c'est une sorte de sclérose. Je pense que c'est bon ni pour la sphère publique ni pour la sphère religieuse. Je pense que ce qui arrive du côté de la sphère religieuse, c'est une sorte de sclérose. Historiquement, les éthiques religieuses ont été des éthiques publiques. Hein. Faut pas s'en cacher. Et je ne veux pas revenir, là, qu'on se le dise. Là. Je ne suis pas un partisan là, d'un retour
la référence religieuse comme référence publique.
Mais à une époque où il y avait une sorte de dichotomie moindre entre ce qui appartenait à la sphère des convictions sacrées des gens et ce qui appartenait à la sphère publique, l'écart entre la fonctionnalité et le purement sacré était beaucoup plus vaseux. Écoute, ma tradition et la tradition juive, prenons les lois comme la cacheroute, hein, comme les lois alimentaires. Pourquoi est-ce que le porc et les fruits de mer sont interdits? Ben, c'est pas parce que ça a été révélé, c'est pour des raisons parfaitement fonctionnelles, dont les gens qui ont élaboré les lois de la cacheroute étaient parfaitement conscients. Vient un moment dans l'évolution d'une religion, là, où la religion est en quelque sorte marginalisée du cœur du débat public et le dynamisme et la fonctionnalité de ces préceptes est en quelque sorte sclérosée pour des raisons sociologiques plus larges. Donc, la question que je me poserais, c'est est-ce que... c'est une hypothèse que je fais.
C'est parce que c'est pour sortir de ça, vous voudrez... créer la condition d'une refondation de l'éthique religieuse, c'est-à-dire d'une reconsidération de tout ce qui est le substrat des références éthiques dans les religions, à frais nouveaux, en tenant compte de la réalité contemporaine et en faisant abstraction de ce qui sont devenus des références sacrées.
Écoute, je te répondrai en citant une expérience autobiographique qui est celle de mon expérience en tant que membre du comité Proulx, là, du comité qui a fait le rapport sur la place de la religion à l'école. Pour ceux qui n'ont pas la mémoire longue, qui sont trop jeunes, là, c'est un comité qui a été formé par le ministère de l'Éducation pour étudier la place de la religion à l'école, qui a fait un rapport en 1999, rapport qui, je dois le dire avec satisfaction, a finalement été plus ou moins mis en vigueur avec les dernières dispositions prises par le ministère de l'Éducation, qui appelait en quelque sorte la laïcisation des structures scolaires et du contenu de l'enseignement dans les écoles québécoises. Bon, on a eu à rencontrer un grand nombre de groupes religieux, comme tu peux l'imaginer, qui au départ n'étaient pas humant l'air, en quelque sorte, et voyant qu'ils n'avaient pas affaire à un comité fait de prêtres et de rabbins et d'imams, se disaient, ces gens-là, ça n'augure rien de bon, et avaient une vision extrêmement, au départ, braquée là, sur... les conclusions auxquelles j'en suis arrivé au terme de mois de discussion avec ces gens-là, c'est que premièrement, les compromis sont peut-être plus faciles à identifier lorsqu'on délibère un peu que lorsqu'on regarde la situation là, des laïcisants d'un côté, des gens religieux de l'autre, ou là, entre les deux, là, il y a que le feu et les armes possibles. Première conviction. Deuxième conviction, c'est que, comment dire, cette espèce de refonte fondamentale que tu envisages, je ne suis pas convaincu qu'elle soit nécessaire. Ça prend 15 minutes pour que, lorsque les gens qui sont motivés par des convictions religieuses sentent que leur position va être prise au sérieux, pour que, en quelque sorte, ils les... comment dire?
Les matinent, OK. Ils développent eux-mêmes une capacité, un sur-regard sur ces arguments-là.
Tout à fait, oui. Donc... c'est encore une fois, là, en tant que philosophe, je ne voudrais pas généraliser au-delà d'une expérience qui est purement anecdotique, mais elle me fait penser que l'hypothèse que j'ai émise il y a un instant, qui à l'effet que la manière par laquelle la nature de la conviction religieuse telle qu'on peut la voir chez certains groupes à l'heure actuelle est peut-être davantage fonction du rôle qu'on leur a donné ou qu'on leur a pas donné dans le débat public plutôt qu'une sorte de donnée brute. Je vais...
faudra voir ce que ça donne sur la hiérarchie catholique.
Bon. Oui, Yann Lécaille.
Donc, ce n'est pas seulement pour ça.
Merci. Mais en même temps, le périple historique m'a inspiré une question. Si j'ai bien compris, donc, au moment où on a eu le débat du pluralisme, vous avez dit que les utilitaristes pensaient pouvoir dépasser ce type d'éclatement du discours. Sans doute vainement. Et alors, dans le débat sur le mariage homosexuel, on est revenu sur une autre forme d'unification. Vous avez invoqué la fonction du mariage. Regardons à quoi ça sert, et c'est tout comme cela nous éclairerait sur une unicité qui devrait pouvoir nous amener au compromis que l'on recherche, démocratie délibérative. Et évidemment, je me trouve tout à fait dans le confort avec ce type d'approche, avec l'analyse économique du droit. Mais la question que je me suis posée, c'est est-ce que ça va nous permettre d'aborder des questions, évidemment, le mariage homosexuel, c'est de l'actualité, mais l'excision des femmes, des jeunes femmes, est-ce que cette pratique peut être abordée avec une analyse purement fonctionnelle, ou va-t-on dire, puisque la fonction n'est absolument pas évidente, vous êtes dans l'erreur, troisième approche, donc évacué.
Je pense que oui, et je citerai comme preuve deux expériences deux expériences qui, je pense, amène jusqu'à un certain point de l'eau à mon moulin. Il y a un chercheur politologue américain qui s'appelle Jerry Mackey, qui est en fait un théoricien de la démocratie, mais qui presque, comme une sorte de projet à côté de ses projets, de son activité scientifique principale, s'est intéressé à la pratique de l'excision, et notamment dans les pays où elle est le plus pratiquée, notamment en Somalie. Et pour des raisons tout à fait intéressantes qui dépassent largement le cadre de ma réponse à ta question, il s'est retrouvé dans un projet de recherche avec des gens qui allaient en Somalie pour comprendre, d'un point de vue anthropologique, la pratique de l'excision. Naïvement, Jerry, qui was along for the ride, comme on dit, s'est dit, mais il serait intéressant quand même de pousser un peu les gens sur, outre le symbole, outre la symbolique, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une fonction qui est remplie par l'excision, une fonction bien terre-à-terre, et c'est ressorti assez rapidement, l'excision est nécessaire parce que sinon, nos filles ne sont pas marriageable, ne sont pas bonnes à marier. Pourquoi ne sont-elles pas bonnes à marier? Il n'y a rien d'absolu dans le fait de pratiquer l'excision, mais nous sommes les seuls à ne pas les exciser alors que d'autres dans notre village ou dans notre communauté le font, nous nous plaçons dans un désavantage comparatif par rapport aux autres familles. Une fois que tout le monde se rend compte de cela, qu'eux préféreraient ne pas faire l'excision de leur fille, mais préfèrent faire l'excision de leur fille dans un contexte où les autres le font également, si vous voyez ce que je veux dire, une fois que tous disent, tous en même temps, on accepte de ne plus rendre cela une condition de la marriageability de nos filles, ils ont réussi, et je peux te donner des articles tout à fait fascinants à cet effet, à faire que la pratique de l'excision soit abolie dans de nombreux villages de la Somalie et d'ailleurs. Donc, poussons à la fonction, et une fois qu'on a identifié la fonction, peut-on encore regarder cette fonction? Tu vois ce que je veux dire. Je vais m'arrêter là, en fait. Il y a une autre donnée intéressante, cette fois-ci. Je vais m'arrêter là. Il me semble que c'est un bon exemple pour montrer, justement, la fécondité que peut avoir ce genre d'approche.
Luc Tremblay.
Oui, une, d'une part, quand on parle de démocratie délibérative et on dit que les compromis doivent se faire sur la base de raison et de justification, j'ai quand même une difficulté avec la justification de type religieuse. dans une communauté pour la raison que dans une argumentation de type religieuse, il y a toujours une prémisse qui échappe à la raison et qui fait que l'argumentation n'est pas conforme au rationnel et au raisonnable. Et dans le débat sur le mariage, on l'a vu, il y a des gens qui s'opposaient au mariage gay pour des motifs purement religieux, qui est un type d'argumentation, alors que d'autres pouvaient référer à la religion, mais pour protéger leur intérêt à ne pas être offensé ou profondément offensé par la reconnaissance publique de quelque chose qui affecte leur croyance fondamentale, comme si on reconnaissait la bigamie. C'est l'argument que, ici j'ai en tête, l'argument que Hart avait déjà soulevé, pour dire, écoutez, la bigamie, c'est quand même différent, là, peut-être qu'on peut... Alors, il y a quelque chose de religieux. Ne pas porter offense au sentiment religieux, c'est une chose rationnelle, enfin, qu'on peut défendre. L'argument religieux au mérite, ça, c'est autre chose. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ça. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui m'intriguait, c'est que la conception des droits, et je sais qu'on l'entend, mais me semble assez radicale. Un droit est quelque chose qui n'est pas absolu, c'est quelque chose qu'on peut restreindre, précisément sur la base de raison, et donc le débat devient de savoir quel type de raison de justification sont acceptables ou pas, dont les raisons religieuses ou d'autres types de raisons. Et dans le cas du débat sur le mariage, je pense, moi, que ce qui a manqué, et là je pense qu'on serait probablement d'accord, c'est qu'il n'y a pas eu ce débat, on n'a pas eu de débat public complet, il y a eu des débats académiques, il y a eu certains débats dans des journaux, mais il n'y a pas eu de débat de fond sur tous les types d'arguments qui pourraient justifier une restriction à la revendication des droits, de la part de ceux qui étaient contre. Là. Et ça n'a pas été non plus, je pense, tenté d'être compris à leur mérite, ces arguments-là. Mais ça, j'en ai probablement d'accord sur ce point. Mais...
Écoute, pour la deuxième question, je vais tout simplement faire un mea culpa partiel. C'est-à-dire que bon, je présente les choses de manière assez idéale, typique et en 45 minutes, on ne peut pas faire toutes les nuances qui s'imposent. Je prétends quand même que, entre dire que, telle position, je vais la défendre contre toi parce que c'est mon droit, et telle position, j'y adhère parce que c'est dans mon intérêt, il y a, d'un point de vue symbolique et rhétorique, une différence quand même importante, même si, par ailleurs, hein, tu as raison que la vision du droit comme atout là, est excessive, d'un point de vue légal, surtout dans le contexte canadien, où il y a déjà dans la Constitution toutes sortes de manières de prévoir la restriction des droits. Sur le premier point, donc, l'argument religieux, et n'oublie pas que tu parles à quelqu'un qui est profondément athée, là, pour qui l'univers des considérations religieuses est assez étranger. Il me semble néanmoins qu'il y a une dichotomie trop rapidement faite par des gens comme moi, hein, entre des raisons, avec un R majuscule, là, des raisons purement données par la raison, hein, et les raisons religieuses. Et on peut le voir en grattant un peu des deux côtés de cette fausse dichotomie. Il me semble que beaucoup de croyants pour qui leur religion n'est pas simplement là, un ensemble de préceptes sclérosés, c'est une manière de penser le monde. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui relève, c'est pas de l'ordre de l'argument d'autorité. Écoutez, là, moi, je compte le mariage homosexuel parce que mon rabbin, mon prêtre, mon imam, mon je sais pas trop quoi, remplissez le blanc, m'a dit que c'était pas bien. Hein? Il y a, pour une personne croyante dont la foi est vivante plutôt que sclérosée, la foi est un ensemble, est un univers de toutes sortes de choses, de symboles, mais aussi de raisons au pluriel, là, de considérations morales, hein? De considérations morales qui donnent de l'importance à certaines choses plutôt qu'à d'autres, peut-être plus à certaines choses qu'aux choses auxquelles une personne dont la morale serait complètement là, laïque donnerait de l'importance, mais c'est un champ de raison. De l'autre côté, hein, une morale purement... J'ai parlé au nom là, d'une morale contractualiste qui tente de fonder la morale en raison. Hein, il est bien certain que... à un certain moment, le rationaliste doit bien se rendre compte qu'il a des convictions, qu'il a des engagements qui sont en quelque sorte fondamentaux. Tu ne peux pas... Il y a des convictions du rationaliste qui ne peuvent pas, qui constituent en quelque sorte le bedrock, là, au-delà duquel la raison ne peut plus aller. Bon, Wittgenstein dit à un moment donné, on frappe le roc et t'as beau essayer avec l'appel là, d'aller plus profondément, tu peux pas. Je pense qu'un rationaliste réflexif doit se rendre compte qu'il y a également quelque chose dans le projet rationaliste d'une fondation ultime là, de la connaissance et de la morale, quelque chose de relativement fragile. Hein. Donc, je pense qu'en grattant un peu des deux côtés, on peut faire de sorte que cette frontière extrêmement étanche qu'on veut trop souvent ériger entre, un discours moral ancré dans une tradition religieuse ou spirituelle et un discours moral purement rationaliste, là, je pense qu'il y a beaucoup plus de vases communicants et beaucoup plus de similarités, même sur le plan métaphysique. Bon, je ne veux pas aller à l'extrême, là, je ne veux pas dire que les rationalistes sont des croyants qui s'ignorent et inversement. Mais
oui, peut-être.
Mais je pense que on a intérêt à essayer de voir jusqu'à où on peut faire de sorte que cette frontière que nous avons érigée très haute et très étanche ne pourrait pas être un peu travaillée.
Okay. Oui, derrière, le micro va se rendre.
Je pense que ça vaut vraiment la peine de demander aux religions, des fois, de justifier leur position sur le mariage. Car je ne connais aucune religion qui se tient exactement aux définitions de mariage, par exemple, dans l'Ancien Testament. Donc, chaque religion, évidemment, a trouvé une façon d'adopter ces notions, probablement par une définition fonctionnelle. Même Saint Paul a dit « mieux qu'il se marie qu'il se brûle ». Donc, il y a un sens, même dans les textes religieux, qu'il y a des motifs fonctionnels et rationnels pour le mariage. Et si on regarde les opinions religieuses comme intouchables, comme non rationnelles, on ne demande jamais aux gens de les justifier, de les expliquer, de défendre le fait qu'ils acceptent certains changements et rejettent demain d'autres. Donc, je pense que c'est vraiment valable de faire un espace dans l'espace public pour les opinions religieuses là-dessus.
Écoute, il y a un ouvrage d'une historienne dont le nom, je pense que c'est Stephanie Kuntz, C-O-N-T-Z. La conception soi-disant traditionnelle du mariage, qui est défendue pour des raisons soi-disant religieuses, elle a à peu près 2 siècles maximum. Hein, dans ma tradition culturelle et religieuse, la polygamie elle est partout dans l'Ancien Testament. Hein, il y a effectivement quelque chose d'un peu étrange à parler. Et je l'ai évité en fait dans mon texte comme tel de parler de défense religieuse d'une conception traditionnelle du mariage. J'ai parlé d'une conception traditionnelle du mariage parce qu'effectivement, là, je ne suis pas un théologien, mais pas non plus un juriste, mais je connais un peu ma tradition culturelle et religieuse, et je peux dire que notre conception traditionnelle du mariage n'a rien à voir avec celle que l'on peut inférer de l'Ancien Testament. Hein. Bon. Donc, j'ai parlé de la conception traditionnelle pour cette raison. Mais il me semble que, une fois que cette séparation est faite, l'argument fonctionnaliste vient assez rapidement aux lèvres de ceux qui, à tort ou à raison, renvoient à une défense religieuse. C'est l'argument de la procréation. C'est l'argument fonctionnel de la procréation. Hein, et ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il ouvre une brèche possible pour la création d'un pont, création d'un pont sur lequel les défenseurs de cette conception seront peut-être amenés à corps défendant, là, je ne dis pas le contraire, mais de dire que vous avez raison, le mariage comme institution publique exige que nous lui découvrions une fonction sociale importante. Vous en proposez une, je vais vous montrer pourquoi il me semble qu'elle est problématique, mais gardons cette idée de fonction sociale importante et voyez comment la mienne... semble capturer quelque chose qui est davantage intrinsèque à la religion du mariage que la vôtre. Ça me semble être quelque chose qui est... Bon, c'est peut-être un peu naïf là, de penser que...
Faudrait essayer.
Oui, effectivement.
Non, sociologiquement, pour un sociologue, la tendance, ce serait de dire, ben, regardons comment... Quels sont les procédés argumentatifs déployés?
Oui.
Et puis, comment est-ce que ça évolue dans le cadre d'une délibération quelconque pour voir si ça prend ce tour-là ou est-ce que ça a plutôt tendance... Et à quelles conditions ça va prendre un tour et à quelles conditions ça va prendre un autre?
Mais ce qui est formidable avec le fait d'être philosophe, c'est qu'on peut faire de la sociologie normative, c'est-à-dire non pas la manière que les choses sont, mais la manière qu'elles devraient être.
Je ne te le fais pas dire. Dans l'ordre, il y a Luc, il y a Michel, peut-être Michel, et puis qui n'a pas encore posé de questions, et puis Luc, par la suite, à moins que ta question soit dans la foulée. D'accord. OK. Alors, Michel Morin.
Oui, donc, c'est simplement un commentaire ou une réaction à la très intéressante communication de Daniel. Pour avoir lu la jurisprudence sur l'interdiction ou l'exclusion des gays et des lesbiennes du mariage, je ne reconnaissais pas tellement ta présentation qui se voulait un peu un ramassis. Et ça revient à ce que Luc a déjà soulevé ici. Peut-être que sur la place publique, au Parlement, c'était si vous refusez de modifier la définition du mariage, vous êtes un homophobe. Et puis, d'un autre côté, si vous modifiez cette définition, vous allez permettre la bestialité et la polygamie, ou c'est ça qu'on retenait des médias. Mais les tribunaux se sont livrés à cet exercice. Alors, évidemment, avec peut-être des demandeurs qui se drapaient dans la notion d'égalité en disant... tout ce qui serait autre chose que le mariage est inacceptable et nous avons ce droit à l'égalité, c'est ce que nous demandait. Mais finalement, les plaideurs, sachant qu'il y avait des restrictions possibles que le gouvernement allait faire valoir, et après une preuve très volumineuse en première instance, on a été sortir depuis Saint-Augustin jusqu'aux tribus d'Afrique d'un côté et de l'autre, et des témoins experts de sociologie et tout ça. Enfin, il y a eu un débat très, très, très important qui s'est axé sur la fonctionnalité et l'argument qui l'a emporté. Finalement, avait été mis de l'avant déjà il y a plusieurs années, chaque fois qu'on parlait des couples de même sexe, c'était de dire la définition traditionnelle est à la fois trop large parce qu'elle inclut les couples qui n'ont pas d'enfants et trop restrictive parce qu'elle exclut les couples gays qui adoptent et les couples lesbiens qui adoptent ou qui ont des enfants par insémination artificielle. Donc ce débat de fonctionnalité, malgré le fait qu'il a été apporté peut-être dans une démarche de type tout ou rien, finalement, au niveau des juges, des plaidoiries, de la preuve, c'est réglé de cette manière-là. Et ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est de se demander pourquoi les politiciens sont incapables de s'engager dans un débat de ce genre. Pourquoi il faut qu'ils le fassent le fusil sur la tempe lorsque les tribunaux, qui pendant longtemps, non seulement sur cette question-là, mais sur bien d'autres, ont cherché à renvoyer la balle dans le camp du Parlement jusqu'à ce qu'ils constatent que c'était une perte de temps pour tout ce qui était impopulaire. Tout ce qui peut-être dans l'esprit des politiciens relevait d'une éthique personnelle controversée dont ils devaient se tenir loin, mais qui en fait soulevait des questions de qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui est obligatoire ou qu'est-ce qui est interdit dans notre société. C'était clairement interdit de célébrer un mariage entre conjoints de même sexe. Donc il y avait bien plus qu'une dimension d'éthique personnelle qui était en jeu là-dedans, mais les politiciens refusaient de s'y engager. Et à l'inverse, au Québec, où on l'a fait pour l'union civile, ça a été fait dans une sorte de climat de terrorisme où toute opposition, toute contestation était évacuée du revers de la main comme une forme d'homophobie. Alors bon, c'est ma réaction. Donc en fait, le débat sur les tribunaux ne correspond pas tellement à ta présentation. Et la question étant, pourquoi ce genre de débat n'a pas pu avoir lieu dans l'arène politique, finalement?
Mais je reçois tout ce que tu dis. Je ne voyais pas comme faisant état dans ma communication je ne prétendais pas rendre compte du débat tel qu'il s'est déroulé devant les tribunaux. Je suis en tant que... Enfin, en mettant mon chapeau de théoricien de la démocratie dans la deuxième partie du texte, beaucoup plus intéressé pour ces fins-ci là, par la teneur du débat public. Donc, je reçois et je te remercie, mais je ne me voyais pas comme faisant état, comme tentant de rendre compte de la manière par laquelle le débat a été mené devant les tribunaux. Et je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il a été étonnamment fait que le relais avec la sphère publique et la sphère politique notamment n'a pas été fait.
Luc. Oui, peut-être un mot, Robert. J'ai bien entendu ce que tu disais et je pense que c'est juste. Il faut permettre aux
groupes religieux de faire valoir leurs motivations, leurs justifications pour qu'on puisse les tester. La question n'est pas là, mais quel est le poids de l'argument religieux une fois qu'on reconnaît qu'il est fondé sur le fait que c'est Dieu qui l'exige? Il ne faut pas que les gays puissent se marier parce que Dieu l'interdit ou c'est écrit dans le livre. On fait quoi dans la sphère publique avec des arguments de ce type? Ça, c'était le sens. Non pas qu'on doit interdire de le dire, il faut sonder. D'ailleurs, dans le déjà revient au débat sur le mariage, les évêques catholiques se sont prononcés beaucoup et leurs arguments étaient très peu religieux, somme toute.
Exactement.
Ils avaient des arguments laïques. Qui pouvait être accepté ou réfuté là, sur une preuve sociologique. J'aurais une autre question sur ce côté-là. Il est vrai que les arguments avancés ont été de type sociologique et fonctionnaliste. On se demandait à quoi servirait le mariage. Donc, on essayait d'identifier des valeurs instrumentales au mariage et on a laissé de côté, c'est la lecture que j'en ai eue, on a laissé de côté ce qu'on pourrait appeler les valeurs intrinsèques du mariage, s'il y en a. Il n'y a pas eu de débat sur ça. Est-ce que le mariage ne symbolise pas quelque chose, quand on parlait de procréation, quelque chose qui, la procréation naturelle, là, j'entends, qui aurait ou qui peut être reconnu par une collectivité comme ayant une valeur intrinsèque? Et là, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ça, qui est au-delà d'arguments sociologiques ou empiriques. Est-ce que oui ou non, les couples ont des enfants ou pas? C'est quelle valeur intrinsèque on reconnaît collectivement à certaines choses? Comme la procréation naturelle. Okay. Est-ce qu'on peut le faire ou pas?
Ben merci. Encore une fois, pour le premier point, je pense que ce que tu as dit à propos des évêques catholiques va tout à fait dans le sens de ce que je perçois de manière un peu intuitive et anecdotique au gré de ma lecture de différents débats, non seulement sur le mariage, mais également sur d'autres débats. C'est en quelque sorte, la force... centripète est peut-être pas le bon mot, là, mais la force, la convergence vers l'univers, vers la sphère des raisons que le débat public entraîne. Amener des gens dans le débat, et il est très rare, à mon avis, là, de mon expérience, qu'ils vont mettre de l'avant des arguments du style « on est pour telle position parce que Dieu nous l'a dit, parce que le rabbin nous l'a dit, parce que le prêtre nous l'a dit. Hein, » La logique de la participation dans un débat va amener les gens... peut-être pour des raisons instrumentales au départ, parce qu'ils se disent, si on dit que c'est Dieu, ben, on ne va pas se faire écouter, on est mieux de trouver des raisons, là. Mais, l'hypocrisie et la vertu que... C'est quoi déjà? Bon.
C'est le mariage que le
mariage. Voilà. Voilà. Ce qui est peut-être fait pour des raisons instrumentales au départ, les gens sont pris avec et doivent composer avec les positions qui sont mises de l'avant. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'ouverture au débat public qui pousse les gens à mettre de l'avant des raisons plutôt que des arguments d'autorité aussi crus là, que ceux que tu as. Est-ce que ultimement il n'y a pas que des arguments d'autorité et du côté, ça c'est une question philosophique très profonde sur laquelle on pourrait débattre autour d'une bière à un moment donné, mais des arguments d'autorité vraiment cru et comme ceux que tu as énoncés, il me semble que non. Le deuxième point, deux choses. J'ai parlé de comment organiser tout ça. Un État, d'abord, un État libéral et démocratique peut reconnaître qu'il y a des valeurs intrinsèques au mariage, hein, et que les gens de différentes traditions voient peut-être ces valeurs intrinsèques de manière différente, mais avant de créer une institution publique du mariage, doit se demander s'il y a dans ces valeurs intrinsèques ou dans d'autres considérations, dans d'autres rôles que le mariage remplit dans la société, quelque chose qui justifie que l'État, créer une institution publique du mariage. Après tout, l'amitié est également une relation qui comporte énormément de vertus intrinsèques, mais pour toutes sortes de raisons, là, il semble que créer une institution publique de l'amitié là, comporterait plus d'inconvénients que de fonctions. Donc, il me semble que c'est une question de se poser, de se demander si le mariage comme l'amitié est une relation humaine qui comporte, qui présente, qui manifeste des valeurs intrinsèques. La réponse ne peut être, à mon avis, que oui. Mais est-ce que pour cela, qu'est-ce qui en découle pour le rôle de l'État dans l'établissement ou non d'une institution autour de du mariage? Il me semble que les deux questions doivent être assez scrupuleusement séparées. Cela ne veut pas dire que le débat sur les valeurs intrinsèques ne doit pas faire partie le débat démocratique sur les valeurs intrinsèques ne doit pas être incorporé au débat qui mène à la conclusion de créer ou non une institution publique du mariage. Mais enfin, il me semble que ce sont deux questions qui sont distinctes. Il se pourrait fort que ce qui justifie l'établissement d'une institution publique du mariage n'ait rien à voir avec les valeurs intrinsèques manifestées par le mariage, que l'on n'a pas à nier par ailleurs. On n'a qu'à reconnaître que ce n'est pas nécessairement sur cette base-là que l'État légifère.
Merci. Alors, écoutez, on termine généralement la conférence par un vin qu'on offre à tout le monde, ce qui permet de poursuivre l'échange sur un autre mode. Je voudrais remercier Daniel Van Stock pour cette conférence et puis pour les réponses données aussi aux questions qui ont amené le débat plus loin encore, pour vos questions aussi qui ont permis ça. Et puis, je vais le remercier donc encore en votre nom. Merci. Le cycle de conférences va se poursuivre le 1er novembre. On va alors recevoir Jean-Paul Brodeur, qui est directeur du Centre international de criminologie comparée. Et sa conférence portera sur le droit comme mécanisme de contrôle social, un mécanisme trop complexe, point d'interrogation. Alors, vous êtes tous invités, et puis on pourra poursuivre les échanges à ce moment-là sur un autre mode. Maintenant, s'il y en a qui veulent venir en aide à l'organisation logistique pour les bouteilles et tout ça, vous êtes invités à nous rendre ce service et puis on continue la conversation. Merci beaucoup.